Oui, c'est René à l'appareil, René Magritte, mais c'est proprement scandaleux, dois-je vous dire. Hein, l'Artichaut est une très belle émission qui parle d'art. Cependant, n'appelez plus ça un urinoir, c'est fontaine. Merci, c'était René. Oui, c'est encore René Magritte à l'appareil. C'est pour dire que l'Artichaut, c'est vraiment une émission merveilleuse qui donne la frite. J'adore l'artichaut.
C'est l'artichaut.
Artichaut.
C'est l'artichaut.
Artichaut, le moment où on parle d'art.
Pourquoi c'est connu?
Bonsoir, bonsoir. Nous sommes sur les ondes du 101.7 et maintenant du 107.5 puisque l'artichaut est diffusé sur RDWADI.
Oh
vous
là
pouvez
là
nous
là
écouter là de partout. Et Carotte est de nouveau présente ce vendredi soir pour vous parler d'art avec passion, avec amour, avec toujours beaucoup de joie et d'engouement.
Évidemment, évidemment. Donc, nous avions quitté Gertrude Stein et Alice Toklas, qui étaient nées dans les années 1870.
De grandes femmes.
Ouais, ben de géniales visionnaires. Et donc, on peut dire que Tamara de Lampica, de laquelle on va parler, on peut dire que c'est un peu comme leur fille, puisqu'elle naît 20 ans après. Donc, elle aimait le champagne, elle aimait les bijoux, les fourrures, les toilettes de chez Jean Poiret et de Chanel, d'une élégance racée digne de Greta Garbo ou de Marlène Dietrich. Tamara de Lampica est une artiste et c'est une personnalité mondaine du tout Paris de l'entre-deux-guerres. Ses tableaux et principalement des portraits et des nus féminins très saphiques, mélangeant l'esthétique moderne et une forme de maniérisme qui est liée à la Renaissance et qui prouve aussi sa grande culture, sont à l'image des années folles, que j'adore. Lampica, dont l'œuvre ne ressemble à aucune autre, a su créer son propre style. D'ailleurs, c'est ce qu'elle disait. « Mon but ne copie jamais ». Crée un nouveau style, clair, avec des couleurs lumineuses et perçoit l'élégance dans tes modèles. Et elle était belle comme tout et on peut dire que c'est la première artiste peintre féminine et féministe et libérée qui va, comme elle est dans les hautes sphères de l'aristocratie et des familles très riches et fortunées, elle va vraiment lancer sa carrière comme le ferait une star hollywoodienne, donc un genre de star system autour d'un personnage et d'une personnalité flamboyante qui vont lui permettre d'être célèbre en son temps et de nous apporter une iconographie vraiment très intéressante de ce qu'on adore dans les années folles chez ces personnages de la jet set. Donc Malo, comme ils n'avaient pas encore de jet supersonique, on les appelait la Coffee Society, les gens qui peuvent passer leur après-midi à des terrasses de café en buvant du café. Voilà.
C'est sympa comme étiquette, Coffee Society.
Exactement, c'est très chouette et c'était un peu moins polluant que la Jet Society parce que
tout à fait.
C'est quand même moins polluant un petit café de comptoir qu'un grand voyage en jet.
Je voudrais savoir avant tout, enfin là tu l'as dit aussi parce que pour toi c'était vraiment une des premières artistes féminines, féministes, etc. Mais toi, comment tu l'as connue, dans quel contexte et qu'est-ce qui t'a plu chez elle en dehors de sa personnalité
Ben, je la connais parce qu'elle est célébrissime. Elle est célébrissime en son temps. Et comme elle a appris à peindre dès sa petite enfance et qu'elle est douée pour ça, elle sait qu'elle va devenir peintre. Donc, elle se lance alors qu'elle n'aurait pas besoin vraiment de travailler, quoi, juste de chercher un mari et puis basta. Elle se lance vraiment dans une carrière de peintre. Elle a une petite sœur dont on reparlera qui va elle aussi un peu marquer son temps mais au niveau plus de l'architecture et du design. Et en plus, elle lance aussi l'art déco. Donc elle est ce qu'on appelle, elle fait partie du mouvement du néo-cubisme. Et ses portraits, essentiellement des femmes, qui sont assez sculpturales et qui ressemblent presque à des immeubles et qui sont au premier plan, qui prennent vraiment tout l'espace, sont un peu comme des affiches de cinéma. On peut dire qu'elle est aussi vraiment un précurseur dans le domaine visuel, public visuel, des images qui te frappent un peu comme un coup de poing, comme si c'était vraiment une publicité, de la publicité. Du coup, elle en fait de la publicité pour elle-même, elle en fait de la publicité aussi pour tous ses copains riches aristocrates qui ont fui la Pologne et... Donc, on va revenir sur sa vie un peu plus tard, mais disons qu'elle est en avance un peu sur tout. Et elle est aussi, bien sûr, en avance sur les mœurs qui sont excessivement libérées et avec lesquelles elle ne va pas arrêter de jouer sur la bisexualité, se déguiser en garçon, draguer les garçons... déguisée en garçon à des terrasses de café avec ses copines. Enfin, voilà ce qu'on adore dans les années folles, ce qui nous plaît, jouer sur l'ambiguïté, jouer sur ce côté des enfants qui sont très sexués. Par exemple, vous verrez au travers des portraits qu'elle a fait, sa fille, la petite Maria, qu'elle appelait Kizette, elle l'a peinte plusieurs fois et en fait, l'enfant est... à une bouille d'enfant, mais un corps de femme. Et donc, ça fait très Lolita. Et c'est très étrange de voir que c'est la mère qui a peint sa propre petite fille avec une
des
espèce...
formes féminines.
Ben, pas vraiment des formes féminines, mais une espèce de regard déjà sensuel, sexuel, porté sur une enfant.
Alors, Thérèse, s'il vous plaît, n'y voyez surtout pas le fantasme de l'homme, mais plutôt, si vous voulez, comment dire, la recherche créative, le délire de l'artiste, n'est-ce pas ?
Donc, je pense pas qu'il faille le voir comme quelque chose de vraiment malsain, mais par contre, voilà, ça, effectivement, ça interroge sur les mœurs d'une époque qui vit l'entre-deux-guerres. Donc, il y a encore le souvenir, bien évidemment, de la guerre de 14 et qui bientôt va voir arriver les troupes nazies. Tamara de Lampicka, de son vrai nom Maria Gorska, et elle est née à Varsovie, dans une famille très fortunée, comme je te l'ai dit, qui était liée à l'aristocratie russe. Donc l'aristocratie russe, c'est le fleuron de la culture européenne. Ils parlent plusieurs langues, ils parlent le français couramment depuis des générations. Ils sont ultra cultivés et ils ont un rapport à l'argent de mécénat et de philanthropie de tradition, quoi. Donc dès l'enfance, elle va voyager beaucoup. Elle va être élève à l'Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg et elle va vivre aussi un peu à Lausanne et un peu aussi à Paris en Europe, donc enfant, en suivant ses parents. Et elle va se marier très jeune, à l'âge de 18 ans, avec un jeune avocat qui s'appelle Lampicki, Tadeusz Lampicki, et qui est très en vogue et très en vue dans la société bourgeoise de Varsovie. Et donc ensemble, en 1919, le couple va avoir une petite fille, donc Maria, surnommée la petite Kizette. Donc on retrouvera des portraits d'elle dans les iconographies de sa peinture.
Et je ne sais pas si tu allais y venir, mais du coup, pourquoi elle a changé son prénom ?
Elle a pas
son nom de famille, parce qu'elle a épousé.
C'est Lampicki pour les hommes et c'est Lampicka pour les femmes. Ça se féminise en russe. Et d'autre part, après l'annoblissement du de Lampicka, ça a dû faire partie de son personnage qui voulait plus intégrer la noblesse et l'aristocratie. Quoi.
Mais t'as pas dit que son prénom, c'était pas Tamara aussi ?
Elle s'appelle en fait son vrai nom Maria Gorska, mais sans doute peut-être que elles sont toutes Maria, donc je pense que le Tamara est pas loin derrière. Elle peut pas s'appeler que Maria, quoi qu'il arrive. Donc elle se bat pour faire libérer son mari qui va se faire arrêter par les bolcheviks en 1917 et en fait ils vont fuir la révolution d'octobre qui est sanglante et tous les deux ils vont rejoindre Paris alors que la grande guerre 14-18 vient de s'achever ou va à peine s'achever. À peine installée, elle va tout de suite s'inscrire à Paris à des cours de dessin dans les académies libres de Montparnasse dont on avait parlé déjà et puis elle va avoir la chance de devenir l'élève du peintre André Lhote qui fait partie du club des cubistes et c'est avec lui qu'elle va se forger un style personnel avec à la fois sa culture et donc l'influence des maîtres de la Renaissance qu'ils admirent tous et moi aussi mais aussi des peintres modernes qu'elle va côtoyer. Et chose étonnante, son style qu'on appelle dans le domaine de l'art du néo-réalisme va peu évoluer et c'est ça qui va lui donner sa patte et que ses œuvres vont être très rapidement identifiables, sa griffe.
L'artiste a utilisé son sang pour créer les rouges foncés.
Vous aimez l'argent ?
Le plus que tout.
Plus que tout.
À part le gala.
Manger, c'est plus important que de faire un tableau. On peut vivre sans peindre, mais si on ne mange pas, comme vous dites, on crève.
Alors en 1923, elle suscite l'attention pendant une exposition au Salon d'automne à Paris où elle va représenter deux nus féminins, ça s'appelle Perspective, dans une pose très intime, tout à fait saphique. Et l'œuvre, elle est signée à ce moment-là Lampicki, qui est donc le I l'abréviation de qu'elle est un homme. Donc du coup, les gens qui voient la toile pensent que c'est un homme qui a peint des femmes nues. Et du coup, on va s'apercevoir qu'en fait, elle est une femme, que 2 ans plus tard, en 25, à l'occasion d'une exposition à elle qu'elle va faire en Italie, une exposition personnelle à Milan. Et là, du coup, il y a comme une révélation. Puis en plus, elle est carrément magnifique. Elle s'est posée. Enfin, c'est déjà une star de Hollywood avant même, pendant que Hollywood est en construction, quoi. Donc, pour parler un petit peu de ses mœurs. Donc, en 1927, elle a une aventure avec un dandy célèbre qui s'appelle Gabriele D'Annunzio, qui est un vieil écrivain qui va inviter Tamara chez lui au lac de Garde pour qu'elle puisse réaliser son portrait. Et donc il insiste parce qu'en fait il veut faire l'amour avec elle et donc la belle se refuse et lui, grand seigneur, il lui offre une magnifique topaze en cadeau d'adieu, une bague d'une qualité exceptionnelle qu'elle va porter toute sa vie. L'année suivante, évidemment, elle divorce de son époux, premier époux, avant de se remarier quelques années plus tard avec un très riche héritier. Elle est connue pour sa vie très libre et sa peinture qui l'est tout autant. Et elle vit beaucoup entourée de femmes. Elle aime les femmes et la compagnie des femmes. Donc, elle a plusieurs amies intimes, voire plus qu'intimes, notamment celle que j'adore et que j'ai peinte moi-même, la fameuse Suzy Solidor, qui à l'époque est en pleine gloire aussi à Paris. Et d'ailleurs, je pense que Tamara de Lampica et la bourgeoisie, l'aristocratie mondaine de ce Paris-là on fait aussi la gloire de Suzy Solidor, puisque c'est la muse la plus peinte au monde, et on en reparlera un petit peu plus tard, enfin dans une autre émission, Malo.
Tout à fait.
Parce qu'elle mérite vraiment qu'on lui consacre une émission rien qu'à elle. Et donc Suzy Solidor, elle est propriétaire de sa propre boîte de nuit qui est placardée de tous les portraits d'elle qu'on lui a offert, et elle chante des chansons paillardes de marins en goguette. Donc elle a un succès fou. Et Tamara aime la nuit et elle aime Suzy Solidor. Elles deviennent amantes et bien sûr, Tamara va faire un portrait de Suzy Solidor qui est la petite blonde avec la coupe carrée là, qui lui va comme un gant et qui est super identifiable dans les œuvres de Tamara de Lampica. Alors, comme elle est riche, elle va pouvoir se faire faire un magnifique et incroyable atelier qui est conçu par un architecte très en vue à l'époque et d'avant-garde qui s'appelle Miles Stevens, et donc dans le cœur de Montparnasse. Et elle reçoit où elle travaille sans interruption. Grâce à quoi, Malo ? Le café, la cocaïne. La cocaïne qui est, comme je le rappelle, une substance qui n'était pas encore interdite à l'usage personnel dans ces années-là. Donc, comme Cocteau et tout ça, ils en usent et ils en abusent, mais pour avoir une activité artistique de jour comme de nuit.
Oops, I did it again. I think I did it again. I made you believe we're more than just friends. Oh baby, it might seem like a crush, but it doesn't mean that I'm serious. Cause to lose all my senses, that is just so typically me.
En 1939, l'artiste va s'exiler aux États-Unis. C'est 1939.
Ça tombe bien.
Ouais, on entend les bottes qui arrivent, donc ça lui fait un peu mal aux oreilles. Et donc, elle s'installe aux States, elle devient citoyenne américaine. Elle amène avec elle l'esthétique de l'art déco, qui est plus trop à la mode, mais elle continue quand même d'exposer. Elle va même faire un peu d'art abstrait dans les années 60. Et puis, elle va s'installer au Mexique dans une très belle villa où elle va mourir 20 ans plus tard. Et elle va être redécouverte avant de mourir dans les années 80. Elle va être redécouverte dans les années 70. Et certaines de ses toiles vont être offertes au Centre Pompidou. Ce qui prouve qu'elle se considérait vraiment comme une artiste du XXe siècle. Alors, on va revenir aussi sur cette œuvre saphique avec les deux amies, donc qui s'appelle Perspective et qui date de 23, celle qu'elle a signée avec un nom d'homme. fait un peu à la fois scandale et le buzz dans les années 20. Donc, c'est très représentatif de son style. Les corps sont travaillés comme si c'était des immeubles, quoi, des femmes avec des puissantes architectures, avec une force et à la fois une sensualité justement qui n'a d'égal que la force de l'architecture. Donc c'est fortement sensuel et solide. Les plans sont rapprochés, donc les personnages vraiment t'explosent à la figure. Et une manière à la fois classique comme Ingres et moderne parce que vraiment cubique, quoi. Les bras, les jambes peuvent ressembler à des genres de tuyaux. Donc à cette époque, les critiques pensent que c'est un homme et ça va pas durer longtemps, mais c'était la bonne idée. C'était un peu le suspense, mystère et tout, qui suis-je et tout. Et en fait, regardez, je suis aussi belle que Greta Garbo, donc ça a super bien marché. Donc ensuite, il y a la série de tous les portraits comme La femme à la robe verte. Donc c'est les années 27-30. On peut dire qu'elle a beaucoup peint entre les années 1919 et 1949. Après, ça s'est un peu étiolé, elle a cherché d'autres trucs et puis après, elle était vieille et les modèles ont dû lui manquer. Donc, comme une icône glamour, cette Vénus des temps modernes, elle incarne vraiment la femme de la jet set au temps des années folles. Mais derrière l'image de ce luxe se révèlent quand même les énormes connaissances et cultures de l'artiste, dont toute la peinture de la Renaissance italienne, le traitement des drapés, les corps qui sont vraiment comme des sculptures. Donc elle aime aussi doter ses modèles d'une forme de genre de mystère et les représenter comme des femmes puissantes, indépendantes et libres d'exercer leur séduction. On voit que les arrière-plans, les immeubles et les gratte-ciels. Donc quand elle est arrivée après aux États-Unis, elle a travaillé à fond sur l'architecture et les gratte-ciels. Et du coup, on voit dans ses représentations des arrière-plans, des fenêtres, sa manière presque très abstraite de gérer la ville et les immeubles de la ville. Son travail sur les immeubles est assez fascinant. Donc là, on voit donc 1927, c'est sa fille, la petite Kizette au balcon. Et elle a réalisé donc plusieurs portraits de sa fille dans un style qu'on appelle néo-réaliste. Et la gamine est beaucoup plus jeune dans la réalité qu'elle semble être sur le tableau où elle a l'air déjà d'une petite adolescente. Et on saisit un genre de trouble du passage de la femme enfant, la femme adulte, une forme d'érotisme sourd qui est à la fois inconscient et troublant. Et c'est vrai que, comme on l'a dit dans la première partie, c'est un peu déroutant de la part d'une mère. Mais faut dire que les deux femmes vont avoir des rapports un petit peu difficiles, mais c'est quand même sa fille, unique fille, qui va prendre soin d'elle au moment de sa mort et qui dispersera ses cendres au Mexique. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que toi, tu penses de tout ça ?
Moi, déjà, je suis toujours très impressionnée de toute façon. Je ne sais pas si c'est l'époque ou si c'est parce que moi aussi... J'apprécie beaucoup les femmes qui revendiquent leur liberté et beaucoup de choses et tout, mais en fait, j'ai l'impression que je suis toujours beaucoup plus impressionnée quand tu me présentes des artistes féminines, parce que d'autant plus qu'à l'époque où elles ont vécu, c'était pas forcément les possibilités n'étaient pas les mêmes.
Ah bah
quoi.
Non, c'est
et du coup, moi, je suis davantage généralement impressionnée par le parcours de ces artistes. Du coup, pendant que tu me contais un petit peu son histoire, j'ai pu aussi regarder, et j'espère que vous le faites tous chez vous, certaines de ses œuvres, du coup, sur Google. Merci Google. Et j'ai également appris juste là, il y a quelques secondes, qu'il y avait aussi une BD qui avait été réalisée sur Tamara Dellampica chez Glénat Éditions. Et les auteurs, c'est Virginie Grenier et Daphné Collignon.
Ok, je ne connaissais pas, mais c'est ton job de découvrir les petites pépites, là. Donc merci, Malo Malory.
Et voilà, un autre format pour découvrir les artistes si importants qui ont marqué l'histoire de la peinture et de l'art.
Mais alors aussi, on peut rajouter quand même qu'elle a vraiment savamment construit son personnage de femme peintre, vraiment un personnage. Et comme Dali fabriquera le sien aussi de personnage. Et du coup, elle y intègre les codes de la société du spectacle américaine et elle crée des œuvres, voilà, dont on parlait, qui sont aussi efficaces que des affiches publicitaires ou des photos d'Hollywood. Et il y a un film des actualités Pâté qui a été projeté dans les cinémas français au début des années 30, où on voit deux très belles jeunes femmes qui déambulent dans Paris. Donc il y a une brune un peu hiératique et une blonde tout à fait spectaculaire. Toutes deux portent des chapeaux d'hommes. Elles marchent avec l'assurance des mannequins de chez Madame Gray et elles fument cigarette sur cigarette. Et surtout, elles osent s'installer sans chaperon dans un petit café où elles flirtent ouvertement avec des hommes. Et ce film, qui sent passablement le soufre pour l'époque, est consacré en fait à une journée type de la vie de Tamara Delampica. Et donc Tamara, c'est la jeune femme blonde qui est aussi à l'aise que Greta Garbo, qui deviendra son idole devant les objectifs.
Qui c'est celle-ci déjà, tu m'as...
Ben, c'est une actrice du cinéma ultra célèbre et vraiment très photogénique. Donc une figure du tout Paris et même d'ailleurs du Gotha international. Et cette c'est une même, enfin je veux dire, dans la mesure où elle est devenue aristocrate par le mariage, mais on peut dire que elle a vraiment une aisance de reine et un port de princesse. Elle est une aristocrate de naissance et faut vraiment la féliciter. Alors est-ce que cette femme libérée et sans tabou,
une pionnière,
ouais, vraiment une pionnière. Et elle savait parfaitement ce qu'elle était en train de faire. Et je pense qu'elle avait...
Comment
le faire. Et une conscience très aiguë de son pouvoir de séduction. Et faut quand même aussi dire que si, de son point de vue, Ève est devenue largement l'égale d'Adam, elle va quand même avoir des souvenirs dans la tête assez cauchemardesques de ce qu'elle a vécu et les années d'exil et de la révolution bolchevique et de vite être récupérée par ses cousins qui l'avaient recueillie à Paris parce qu'ils avaient anticipé tout ça. Et elle va quand même s'offrir une petite grosse méga dépression. Et d'ailleurs, elle va être étudiée aussi pour ça, parce que son état de santé et sa dépression va faire un peu le tour du monde des gens qui s'intéressent à la peinture. Mais il faut lui reconnaître une rage de survivre et aussi un art de se mettre en scène. Et c'est difficile de savoir où elle a acquis une telle assurance. Alors, je ne sais pas si elle avait pris des cours de théâtre, mais avec sa sœur Adrienne, elle va recevoir, bon, c'est sûr, une très très bonne éducation, et que je pense que toute son éducation dans l'aristocratie russe et où elle a été sûrement très gâtée va la faire quoi. Enfin, elle va se faire toute seule dans un temps donné, mais voilà, elle reste vraiment l'égérie de la peinture, à la fois muse et créatrice, à la fois séductrice et dépressive, et en ayant vécu le pire comme le meilleur, quoi. Donc, ils avaient, donc, je ne sais pas si tu les connais, mais il y a une famille riche russe qui était partie en exil, les Lousopov, qui avaient vendu tous leurs bijoux et toutes leurs œuvres d'art pour survivre. Et c'est eux qui les ont pris en charge aussi quand elle est arrivée avec son mari à Paris. Et ils étaient dans le milieu où il y avait aussi le copain de cette époque, le pianiste Rubinstein. Donc franchement, il faut les imaginer au top du top de ces époques-là, avec un méga pianiste qui leur fait de la musique pendant qu'ils boivent du champagne en parlant d'art et de modernisme dans l'art et des voyages qu'ils vont faire. Elle est aussi... vraiment déterminée à devenir célèbre et riche de son vivant. Elle a une sacrée ambition que tout le monde n'a pas. Et elle produit une peinture qui est spectaculaire, aussi spectaculaire probablement que son ambition. Une peinture qui va vraiment rester sa touche, parce qu'elle n'a pas vraiment évolué. Une fois qu'elle a trouvé son style, elle est restée dans son style, et c'est probablement ça aussi qui l'a fait être reconnue dans le monde entier. Donc la production au travers de ces années de création, c'est environ 150 tableaux, Donc, de par sa donation au centre Beaubourg, elle vient s'intégrer à l'histoire de l'art, et particulièrement à l'histoire de l'art en France et à Paris, puisque l'art déco, c'est typique parisien. Et puis, elle participe grandement du flamboiement du rayonnement français à l'étranger, puisque comme elle voyage beaucoup et que ces gens riches et qui ont des familles un peu partout voyagent aussi beaucoup et déménagent et suivent aussi les flux monétaires et des bonnes affaires et tout ça, parce qu'on va arriver aussi dans les finances et les grands financiers qui vont après faire les années d'après-guerre. Et voilà, donc c'est une façon de rendre hommage à Tamara de Lampica que j'ai peinte, qui m'a beaucoup ému, parce que c'est vrai que voilà, elle ressemble à ce qu'aurait pu être la grande sœur de ma grand-mère, et j'aurais aimé être la petite souris un peu dans ces milieux-là qui sont fascinants, parce que c'est comme dans Le Guépard, c'est des épopées qui n'existe plus. C'est un monde qui est mort, qui est fini, qui est terminé.
Et peut-être que c'est un monde phénix et qui renaîtra un jour de ses cendres.
Ben oui, j'espère.
Il faut l'espérer, en tout cas.
En tout cas, quand l'argent sert la cause de l'art, et ça, au travers de l'histoire, que ce soit les Médicis ou l'argent, peut servir la cause de l'artiste et de l'art, et faire évoluer les choses, évoluer les mentalités. Parce que c'est finalement dans les révolutions artistiques, la révolution artistique visuelle, elle est la base aussi d'une révolution plus intense, plus intime, philosophique, sociale. Quand l'homme riche y participe de l'art et du déploiement de l'art, il est utile. Et ça, c'est bien aussi de le rappeler, les gens qui ont eu de l'argent dans le temps n'étaient pas là pour nécessairement faire de l'argent avec de l'argent. Ils voulaient laisser leur nom gravé dans l'histoire et auréolé d'avoir été des visionnaires, d'avoir été généreux, d'avoir été des philanthropes, d'avoir fait des belles villes, d'avoir pris le temps de construire des bâtiments sur 30 ou 50 ans. C'est un peu nos pharaons à nous de l'Europe, quoi. Laisser derrière soi des belles œuvres, du beau bâti pour graver son nom dans l'histoire. Et ça manque cruellement à l'époque dans laquelle on vit, où on est blindé.
Aujourd'hui, c'est beaucoup d'individualisme, quoi.
Ben oui, beaucoup de millionnaires qui savent pas quoi faire de leur argent.
Ils mettent dans les jets, justement.
Oui, ben voilà, mais c'est
bien. Ces bandes de tocaves.
C'est bien dommage. Donc
allez acheter des tableaux.
Allez acheter des œuvres. Oui, oui. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles défiscalisations sur les œuvres. On peut acheter des œuvres d'art maintenant en leasing. Et il y a des défiscalisations totales sur vos impôts si vous avez une entreprise. Donc allez vous renseigner, parce qu'en fait, il y a tout un tas de facilités de défiscalisation faites sur les achats d'œuvres d'art. Et du coup, ben voilà, pensez aussi aux artistes et à commencer des collections, parce qu'il y a énormément de gens qui produisent des choses très intéressantes, dont on parle sûrement peu aujourd'hui, mais qui pourraient faire des gros chiffres de vente aux enchères, qui sait, dans moins de 20 ans. Voilà, c'est aussi une forme de spéculation, mais qui est intéressante, intelligente et qui fait évoluer les mentalités. Voilà, Malo, je pense qu'on est bon. J'aurais plus qu'à t'envoyer une super petite musique et je te fais confiance pour le magnifique visuel que tu vas nous trouver. Il y a l'autoportrait. L'autoportrait à la Bugatti verte. Au volant d'une Bugatti casquée, gantée, tel un pilote de course. Je pense que si on doit retenir une image de Tamara de Lampica, autant que ce soit celle-ci.
Voilà. Et on mettra celle-ci.
Je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine. Bon vendredi soir, bon week-end à tous et à très bientôt, je vous aime, des bisous.
Merci Carotte, merci à vous et à très vite sur le 101.7, 107.5.
Oh baby, baby, oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, oops, you think I'm in love. But I'm sent from above. I'm not that innocent. You see, my problem is this. I'm dreaming away, wishing that heroes that truly exist. I cry watching the names. Can't you see I'm a fool in so many ways? But to lose all my senses. played with your heart, got lost in the game. Oh baby, baby, oops, you'll think I'm in love, but I'm sent from above. I'm not that innocent. Did it again to your heart, got lost in this game, oh baby. Oops, you think that I'm sent from above. I'm not that innocent. Oops, I did it again. I played with your heart, got lost in the game, oh baby, baby. Oops, oops, but I'm sent from above. I'm not that innocent.
Brittany, before you go, there's something I want you to have.
Oh, it's beautiful! But wait a minute, isn't this...
Yeah, yes it is.
But I thought the old lady dropped it into the ocean in the end.
Well, baby, I went down and got it for you. Oh, you shouldn't have.